d'en savoir plus sur Radio Grand-Ciel. Bonjour à tous, au micro Elisabeth Couget. Avant de venir vivre à Chartres, nous avons vécu durant quelques années en Bourgogne. En quittant cette très belle région pour la Beauce, j'ai laissé derrière moi, entre autres, une amie très très chère, Marie-France. En quelque sorte, c'est elle qui est à l'origine de notre émission d'aujourd'hui. Il y a quelques mois, elle m'a offert un livre en me disant « C'est une amie qui l'a écrit. Lis-le, tu l'aimeras. » Alors, j'aime beaucoup lire en général, j'adore les livres et celui-ci, avec une photo en couleur sépia représentant un couple sur sa couverture, m'a immédiatement attirée. Je le tournais, retournais dans mes mains et finalement, j'ai découvert le nom de l'auteur, Hélène Ortolan. Et le titre du livre, Tina, avant de l'ouvrir. Alors, une dédicace se trouvait sur la page de garde, et voilà ce que j'y ai lu. Alors, à Betty, parce qu'on m'appelle Betty en Bourgogne. À l'ami cher de ma chère amie Marie-France, ce livre est un hommage au courage et à la combativité de mes parents face aux cruelles épreuves de leur vie d'immigrés au cours de la première moitié du XXe siècle. Alors que des pages cruciales de la grande histoire étaient en train de s'écrire en Italie, en France, en Europe et à travers le monde. Bien à vous, Hélène. En lisant la dédicace, et ça m'a encore donné plus d'envie de le lire, et à peine terminé, j'ai téléphoné à Hélène Ortolan, que ses amis en Bourgogne appellent Elena. J'en ferai autant, car Elena est là, elle a bien voulu reprendre la route, et répondre à mon invitation, et la voici dans notre studio de Radio Grand Ciel. Bonjour Elena, bienvenue sur nos ondes.
Bonjour Elisabeth, et un grand merci de m'avoir accueillie à Radio Grand Ciel pour parler un peu de mon ouvrage.
Oui. Alors, vous êtes bourguignonne de naissance.
Oui, tout à fait.
Vous êtes née à Chalon-sur-Saône, mais italienne d'origine. Et il faut préciser, plus vénitienne.
Vénitienne.
Dites-nous alors, qui êtes-vous, Hélène Ortolan ?
Alors, je suis Hélène Ortolan, française, née en France, de parents immigrés italiens, donc à ma naissance italienne. Mais j'ai été naturalisée à l'âge de 6 ans. Et j'ai été éduquée comme tout enfant français. Et moi, je me sentais complètement française pendant ma petite enfance. Je n'ai vraiment découvert mes origines lorsque je me suis mise à apprendre l'italien. Et pour moi, là, ça a été une grande découverte.
Alors, vous avez effectivement non seulement fait les petites classes, mais les grandes, puisque vous êtes devenue professeur. Qu'est-ce que vous enseignez ?
Alors, j'ai donc...
Où enseignez-vous ? Si, vous enseignez toujours.
J'enseigne encore un peu.
Voilà.
Effectivement, j'ai fait des études supérieures pour devenir professeur d'italien et je me suis tournée vers l'enseignement pour adultes, surtout. Et j'ai enseigné l'italien et ainsi que le français de langue étrangère. L'italien, dans le cadre de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est pour ça que j'avais affaire à des adultes, pour des gens qui apprenaient pour leur plaisir, mais pour aussi des gens qui en avaient besoin pour leurs besoins professionnels. Voilà. Et actuellement, je donne encore des cours, et j'ai commencé il y a une quinzaine d'années, dans le cadre de l'Université pour tous de Bourgogne.
Ah oui, c'est ça. Ça doit être un peu l'université du temps libre de chez nous.
Ça doit être voilà, ça, oui, je pense.
Ça. Alors, voilà, je vous ai invité donc avec plaisir pour parler de ce livre qui m'a beaucoup plu et qui m'a emballée. Peut-être même avant de commencer à le lire, rien que le titre, les images, effectivement, m'ont donné envie d'en savoir un peu plus. Alors, ce livre est intitulé donc Tina, c'est le sujet de notre émission. C'est votre premier ouvrage ?
C'est mon premier ouvrage, oui,
donc,
édité, oui.
Jamais auparavant ?
Jamais auparavant.
Et vous aviez éventuellement envie de noter des choses, d'écrire quand vous étiez encore en train de travailler, uniquement de travailler le professorat.
Mais j'ai écrit ce livre alors que je travaillais toujours. En fait, j'ai commencé de l'écrire après le décès de ma mère parce qu'elle m'avait transmis tellement de choses qui m'a paru comme une évidence de mettre des mots sur ses paroles
et mettre sur les
et pages. de transmettre tous les messages qu'elle avait bien voulu me confier.
Alors en fait, c'est la réponse à la prochaine question que je voulais vous poser. Comment l'idée d'écrire ce livre vous est venue?
Alors, je vais vous dire que pendant toute sa vie, ma mère n'a eu de cesse de me raconter toute leur vie, de leur enfance jusqu'à ma naissance. Et une vie qui a été extrêmement dure à cause des difficultés de la vie du monde. Mmh. Et j'avoue que quand elle me racontait ça toutes les semaines, j'étais un petit peu... Ça finissait par m'ennuyer. Parce qu'elle répétait, je les connaissais par cœur. Mais bon, ça s'est imprimé tellement bien dans ma mémoire que lorsqu'elle est décédée, j'ai dit à mon tour, il faut que mes enfants et mes petits-enfants connaissent.
Sachent.
Et donc, je me suis mise à écrire.
Alors, quelquefois, les émigrés arrivant dans leur nouveau pays, si on peut dire ça, finalement, essayent de balayer tout le passé pour permettre peut-être aux enfants de s'intégrer plus facilement. Et donc, ils ne veulent même pas utiliser leur langue natale. Était-ce le cas de vos parents, éventuellement?
Alors, je vais vous dire, c'était tout à fait ça, à tel point que je me sentais complètement française. Il faut savoir que lorsque je suis née, mes parents étaient en France depuis 20 ans. Donc, ils étaient pratiquement intégrés.
Oui.
Et à moi, ils ne parlaient que français.
Que français, oui.
Je connaissais... Alors, entre eux, ils parlaient le dialecte. Avec leurs amis, ils parlaient le dialecte. Dialecte que je connaissais parfaitement, mais que je me refusais à parler, même quand j'allais en Vénétie.
Ah oui, je comprends.
Il y avait un petit blocage, quand même.
Ah oui, je comprends. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Henri Troya avait raconté ça, que lorsqu'il est arrivé en France, c'est un enfant émigré, mais lui, il est né en Russie. Donc, quand il est arrivé, en fait, il vivait deux vies totalement différentes durant toute son enfance, puisque... En fait, une fois en dehors de la maison, c'était la France. Mais à l'intérieur, une fois la porte fermée, il était dans la Sainte-Russie.
Oui,
et
c'est
donc,
souvent ça avec
les
Russes.
Je voulais savoir un peu, c'était un peu... Ça
c'était pas ça du tout.
L'Italie à l'intérieur, la France
dehors. Non, pas du tout.
Mais je pense que c'est une question d'intelligence des parents, parce que
ben,
si
c'était
on veut
un
aider
désir.
Les enfants...
Voilà, c'était un désir très profond qui est une intégration.
Ah oui, effectivement, je comprends. Et je crois qu'ils n'avaient pas tort. Alors, ils vous ont parlé en italien, donc heureusement, c'est bien. Ça aurait été dommage de ne pas l'apprendre malgré votre refus de parler ce dialecte. Et c'est venu quand même bien plus tard, parce que ce livre que vous avez écrit, on y reviendra, vous l'avez traduit vous-même en italien pour que vos compatriotes d'origine puisse le lire aussi.
Ma famille surtout, parce que je suis toujours en contact avec ma famille et j'ai de nombreux amis. Et pour moi, c'était aussi une évidence. Et j'ai profité du Covid pour traduire le livre. Voilà.
Donc, ce n'était pas uniquement du côté négatif, malheureusement, cette terrible pandémie. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être vous proposer une petite courte pause musicale. Et on parlera de votre livre qui raconte donc l'histoire de votre famille, qui sont les héros de votre ouvrage intitulé « Tina » qui est paru aux éditions Amalthée.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.
Merci de nous écouter sur Radio Ranciel, dans nos studios, et nous parlons dans notre émission Histoire d'en savoir plus, et nous parlons de la famille de mon invitée Hélène Ortolan, dont elle parle dans son livre Tina. Elena, puisque je continuerai à vous appeler Elena...
Vous permettez que je donne une petite précision.
Oui, bien sûr.
Mon prénom de baptême est effectivement Hélène. Or, lorsque j'ai commencé d'enseigner... Comme j'avais des adultes, j'aimais bien leur donner un prénom italien. Et du coup, je me suis fait appeler Elena par tous mes élèves. Et les amis qui me connaissent, beaucoup m'appellent également Elena.
Ah, donc, voilà. Donc, alors j'écoute bien l'accent tonique du mot, puisque c'est Elena, donc
voilà.
On appuie sur le premier.
Voilà.
Exactement. Donc voilà, Elena, alors d'où arrivent vos parents? Et donc, de quelle partie de l'Italie? Je pense dans la Vénétie, mais un peu plus de précision peut-être.
Alors,
et en quelle année?
Alors, ils sont arrivés séparément. Mon père est arrivé le premier, en 1929, de la Vénétie de la province de Trévise, non loin d'une ville qui a été très marquée par le premier conflit mondial, puisqu'il y a eu une bataille terrible pendant le premier conflit mondial qui s'appelle la bataille del Piave. Et ils sont arrivés en France alors que les lois de Mussolini commençait à s'établir très durement. Et comme il était contre ce régime, il a décidé de tout quitter, dans le plus grand secret, pour rejoindre sa famille qui était installée déjà à Chalon-sur-Saône.
Ah, il avait sa famille,
d'accord. Il était déjà venu une première fois. Il aurait aimé s'installer parce que après la guerre, la Vénétie était dans une telle pauvreté qu'il a eu envie de construire quelque chose ailleurs. Donc sa famille avait déjà
quitté l'Italie,
mais tout à fait légalement à cette époque, parce que c'était possible. Or, quand mon père est allé une première fois, son père l'a rappelé à l'ordre en lui disant « Il faut que tu rentres pour faire ton service militaire parce qu'on peut avoir de graves ennuis. » Donc il est revenu. Il a fait son service militaire, il n'a pas trop pensé à repartir aussitôt. Il a appris un métier, le métier de boulanger, et c'est en allant distribuer du pain qu'il a connu sa fiancée, ma mère.
Qu'il a dû laisser derrière lui en partant.
Et quand il est parti, il n'a strictement rien dit à personne, ni à ses parents, ni à sa fiancée. Il est parti dans le plus grand secret.
Ah oui, d'accord. Ça a dû être pas facile, parce qu'il ne fallait surtout pas que cela se sache.
Bien sûr.
Et c'était la même chose pour votre maman, Tina,
bien
puisque
sûr.
C'est elle.
Et on ne signalait pas qu'il était parti pour ne pas avoir de représailles non plus. Et ils sont partis, plusieurs jeunes, et ils ont traversé les Alpes pour atteindre la Suisse. Et je raconte dans mon livre toutes ces péripéties où même certains sont tombés dans des ravins.
Donc, comme on le sait, la situation politique en Italie était plus que... Comment dire, délicate, dangereuse pour un certain nombre de personnes, enfin tous ceux qui n'étaient pas d'accord.
Oui, et même en ajoutant la pauvreté suite au premier conflit mondial, de tout le pays, pas seulement de la Vénétie, mais de tout le pays.
L'Italie a beaucoup. C'est vrai que n'oublions pas que le nord de l'Italie faisait plus ou moins partie de l'Empire austro-hongrois.
Tout à fait.
Donc c'était un véritable écroulement d'une société. Auquel on s'est habitué bon gré mal gré, là-bas, dans le pays, j'imagine. Et donc, on connaît tous les films Sissi, et voilà
tout
comment, sur la place Saint-Marc, comment la population l'avait accueilli, voilà exactement,
sûr.
Qu'il fallait la présence d'un enfant, finalement, pour
adoucir.
Leur attitude vis-à-vis d'eux. Mais ça n'empêche que l'Italie était occupée par les Autrichiens.
Jusqu'au moment de l'annexion de la Vénétie à l'unité italienne, oui.
Alors, leur vie derrière eux, donc vous disiez que votre père il avait appris le métier de la boulangerie.
Oui.
Donc, un boulanger, je dirais. Donc, et il travaillait, je suppose, bien sûr.
Il travaillait, tout à fait,
Et, Et votre maman, quel âge avait-elle à ce moment-là?
Alors, quand elle l'a connue, elle avait environ 19 ans. Hein. Mm-hmm. Elle était toute jeune.
Toute jeune, oui.
Mais ils avaient été fiancés. Et quand mon père est parti, elle avait 19 ans et demi, quelque chose
D'accord.
comme ça. Donc, elle ne savait rien, elle ne savait pas. Et un beau jour, sa mère et ma mère ont reçu un courrier comme quoi il est arrivé en France.
Et bien arrivé, oui.
Bien après.
Alors, que pensait la famille, finalement, de cette idée, de cette décision qu'ils ont prise de partir?
Alors, ma mère est partie l'année suivante, parce que le but de mon père, c'était qu'elle arrive, elle aussi. Bien sûr, elle ne pouvait pas venir dans les mêmes conditions que lui. Donc, il avait appris, parce qu'à cette époque-là, pourquoi il est parti clandestinement également, mon père? Parce qu'à cette époque-là, Mussolini n'avait pas fermé les frontières, mais il ne faisait plus délivrer de passeport. Donc, on ne pouvait plus aller ailleurs. Cependant, il y avait un moyen pour aller en France, c'était de faire un voyage à Lourdes.
Ah.
Et comme chez ma mère, c'était une famille très catholique, ça a été le moyen de franchir la frontière.
Voilà.
Et je raconte toutes les hésitations de ma mère, savoir si elle franchirait le pas. Et puis, elle a franchi le pas pour rejoindre. Ce livre, c'est aussi un livre,
d'amour.
Voilà. D'amour, voilà.
C'est ça. D'ailleurs.
Et les parents, ben, ma mère a été obligée d'avoir l'autorisation de ses parents, puisqu'elle avait, elle avait à peine plus de 20 ans.
Oui, c'était donc, passé.
Bien
pas
sûr.
Adulte.
Donc, mais ils se sont rendus compte que c'était son futur, et puis elle était fiancée. Mmh. Et à l'époque, être fiancée, engagée,
c'était déjà
très,
véritable.
Oui, très
c'était
important.
Très sérieux, bien sûr.
C'était très sérieux.
Absolument. Alors, bon, ils sont arrivés en France. Les débuts, c'est plus ou moins difficile.
Très
mais
difficile,
ils étaient quand même aidés, si on peut dire, puisqu'ils n'étaient pas complètement des étrangers sans attache, puisqu'il y avait les parents de votre papa. Mais c'était quand même sûrement pas facile.
Alors, aider, c'est pas le mot que j'emploierais, parce qu'ils ont été exploités par leur propre famille.
Ça arrive souvent.
Voilà, ils ont été exploités. Ça a été très dur parce que l'un comme l'autre ne connaissait pas la langue. Mmh. Et parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour avoir des papiers officiels. Donc, sans papiers officiels, on ne pouvait pas avoir de travail. Mais ma mère, qui n'avait jamais travaillé de sa vie chez les autres, s'est mise à faire des ménages. Et là, elle a fait de très belles rencontres de gens intelligents et de bonnes personnes croyantes qui ont tendu la main. Mmh. Et ça a aidé à ce qu'ils fassent leur premier pas en France.
Alors, il y a eu la guerre après. Alors, durant la guerre, je pense, en tant qu'étranger et puis pays ennemi de la France...
Tout à fait, ça a été un véritable déchirement.
Ça n'a pas dû être facile.
Ça a été un véritable déchirement lorsque il a été annoncé sur les ondes que l'Italie était entrée en guerre contre la France. Et ma sœur, très âgée aujourd'hui, puisqu'elle a 90 ans, se souvient toujours des larmes versées de mon père lorsqu'il a appris cette nouvelle. Et ça a été très dur, mais ils ont été obligés d'aller signer à la mairie de la ville pour dire qu'ils s'engageaient du côté de la France.
Donc,
ils devenaient les ennemis de leur patrie.
En même temps, oui, c'est ça. Ils venaient d'une certaine façon apatrides, totalement.
Tout à fait.
Oui, effectivement. Alors, c'était donc effectivement un épisode très, très douloureux dans leur vie d'immigrés. Et je vous propose une nouvelle pause musicale avant de vous retrouver sur Radio Grand Ciel, chers auditeurs.
E tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma vedere luci in mezzo al mare.
Dans cette troisième et dernière partie de notre émission Histoire d'en savoir plus sur Radio Grand Ciel, nous découvrons le roman intitulé Tina de mon invité Eleanor Toland. Il y a un instant, nous évoquions la période difficile qu'ont vécu vos parents durant la guerre en arrivant en France en tant que jeunes émigrés arrivés depuis pas très longtemps à Chalon-sur-Saône. Et après la guerre, comment vivaient-ils ?
Alors d'abord, je veux dire quelque chose de cet épisode de la guerre. Comme mon père avait signé auprès de la mairie qu'il s'engageait pour la France, il a été envoyé pendant plus de 15 mois en Pologne dans le cadre du STO comme un quelconque Français. Et là, ça a été une nouvelle séparation pour mon père, ma mère et pour ma sœur qui étaient là déjà. Mmh. Et sans la solidarité qu'ils ont connue avec des Français exceptionnels, les choses ont été beaucoup plus cruelles pour eux.
Alors après, vous êtes arrivés et après la guerre, j'imagine que la vie a changé pour eux finalement. Ils sont véritablement installés, j'imagine, en France à ce moment-là. Et vous êtes arrivés.
Disons que moi, je suis arrivée à une période beaucoup plus faste. Ils avaient des emplois stables, ils s'étaient bien intégrés, ils parlaient facilement le français, même s'ils avaient gardé un terrible accent qui me mettait parfois mal à l'aise quand j'étais enfant, parce que c'est là où on voyait que j'étais fille d'immigrée.
On voyait que vous étiez différente.
Voilà.
C'est là où votre différence est apparue.
Oui, parce que comme j'avais un prénom français et que j'avais un nom...
Qui aurait pu être français sans aucun problème.
Tout à fait, puisque c'est un petit oiseau rare en français, alors qu'en italien, l'ortolano est un maraîcher et qu'en Vénétie, la lettre finale tombe et ça donne ortolane.
Voilà.
Donc avec des sens complètement différents.
Voilà, c'est juste prononcé autrement.
Voilà, tout à fait.
Alors, dites-moi, justement, quand vous êtes devenue petite écolière à Chalon-sur-Saône, avez-vous senti une différence parmi les autres enfants, à part lorsque votre maman...
Pas tellement.
Parlait, oui.
Je ne sentais pas de différence. J'avais été beaucoup aidée par cette famille dont je viens de vous parler, mm-hmm. qui me soutenait dans mes études. Et c'est eux, cette famille qui a voulu à tout prix que je fasse des études, que j'aille au lycée, parce qu'à mon époque, tout le monde n'allait pas au collège et
les
au lycée.
Les jeunes filles surtout,
voilà.
Pour moi.
Et c'est eux qui m'ont poussée en quatrième à apprendre l'italien. Moi, je ne voulais pas.
Ah ouais.
Et ils m'ont poussée à apprendre l'italien et j'ai obéi, bien sûr, comme c'était à l'époque. Et
on obéissait facilement.
On obéissait beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui.
Ouais.
Et là, j'ai découvert la langue, j'ai découvert la culture. Et depuis cette époque-là, je suis devenue une grande amoureuse de l'Italie et de mes origines.
Oui, vous avez rajouté ça finalement à
Donc je me sens
votre amour pour la France.
J'ai les deux cultures maintenant. Oui.
Dans votre livre, vous décrivez la chaleur, la gentillesse, la bienveillance que vos parents ont rencontrée en France. Cette France, finalement, qui leur a tendu les bras malgré toutes les difficultés.
Oui.
C'est comme ça que vous le ressentez.
Oui, et je veux dire aussi que mes parents étaient des gens très généreux. Ils donnaient beaucoup aussi, et de leur temps et de leur travail, gratuitement. Et donc, il y avait une fusion entre les familles françaises et les familles italiennes.
Alors, Elena,
enfin,
très
du moins la leur.
Elena est très souriante. Elena, voilà, je vais essayer
Elena.
De prononcer comme il faut. Elena est très souriante. Je pense que quand un enfant est souriant, sa mère était souriante. Donc...
Ah, ma mère était une femme, malgré toutes les difficultés qu'elle a connues, elle portait la joie de vivre en elle. Et jusqu'à sa mort, ça a été ainsi. Elle était coquette, elle aimait être belle et elle avait toujours le sourire.
Alors, je voulais vous dire, parce que bon, en général, les gens le savent autour de moi, que je suis née ailleurs et que mon pays, je l'ai quitté, non par nécessité, mais par amour. Mais je me suis souvent posé la question, que peuvent ressentir finalement les gens qui, par nécessité, par obligation, par peur, par différentes raisons, sont obligés de quitter leur pays ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne doit pas être facile.
Ce n'est pas facile du tout. On ne vient jamais, on n'est jamais... Ce n'est jamais facile d'immigrer, quelle que soit Enfin, votre cas personnel est complètement différent, mais quand on est obligé de quitter son pays, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons de faim, soit pour toute autre raison, c'est une épreuve, c'est une grande épreuve. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai voulu insister sur ce côté d'immigration, d'intégration et de solidarité. Pour moi, c'est essentiel de se dire, il faut tendre la main aussi quand les gens souffrent, quand ils sont bienveillants vis-à-vis du pays qui les accueille. Il ne faut pas hésiter à être généreux.
Malheureusement, les exemples sont toujours très, très présents, tout ça.
Exactement.
Et c'est un sujet, finalement, assez personnel. Chacun s'adapte ou essaye de faire comme ils peuvent pour le mieux possible, même. En France, d'ailleurs, en accueillant vos parents en 1929 et 30, finalement, la France, je dis, elle a été récompensée par sa générosité parce que vous, Elena, vous représentez finalement ces étrangers qui ont su et pu profiter de ce que la République française vous a proposé. Vous avez fait des études, devenu professeur et votre livre, finalement, n'adresse sa reconnaissance pas uniquement à vos parents, mais je crois à cette France.
À cette France et à tous les immigrés qui... Parce qu'il faut savoir qu'en
qui
France...
Qui est toujours prêt à venir en aide aux nécessiteux.
Tout à fait.
Je pense.
Il faut savoir qu'il y a 6% de la population française qui est issue de l'immigration italienne. C'est énorme.
Oui, c'est énorme.
C'est énorme. Et beaucoup ont très bien réussi. Et j'en ai eu encore la preuve le week-end dernier lors d'une fête d'un anniversaire d'une revue et où il y avait beaucoup d'enfants immigrés qui avaient très, très bien réussi.
D'ailleurs, je sais qu'en Amérique du Sud, en particulier en Argentine, il y a énormément d'Italiens. Là, c'est pareil, il y a une colonie extrêmement importante. Je ne parle même pas des États-Unis, etc.
Également en Australie.
Ouais. Alors, n'oublions pas le sujet de notre émission, Tina, votre livre, donc écrit par Eleanor Tolan, paru aux éditions Amalté. Ce livre est le prénom, représente le prénom de votre maman. Et c'est votre maman et votre papa qui se trouvent sur la couverture. Maintenant que vous avez finalement... par devoir aussi que vous avez... Il fallait écrire ça et par besoin certainement. Pensez-vous à continuer à continuer sur cette route quelquefois rugueuse de la littérature?
Peut-être. Je n'ai pas encore pris de décision parce que pour moi, l'expérience est toute récente. Mais de toute manière, j'écris régulièrement. J'écris des articles dans une revue franco-italienne. J'écris de petits articles également sur une page privée Facebook qui s'appelle « Les amis de l'Italie ». J'ai toujours aimé beaucoup écrire.
Bon, alors je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. Alors je vous remercie d'être venu depuis la Bourgogne pour nous présenter votre livre. Et voilà, je vous dis au revoir. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis sur Radio Grand Ciel. Et on vous propose encore une belle chanson d'amour pour terminer, chantée par Florent Panic, que nous aimons toutes les deux.
Donc, tout à fait. Et qui est originaire de notre région. Et c'est aussi un coup d'œil à maman, parce que cette chanson a été chantée lors de ses obsèques.
Ah,
donc pour moi, elle est très importante. Donc, merci à vous, Elisabeth.
Merci, Elena.
Quando sono solo sogno l'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Con te